Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël.
Bon, là, je sais, je vais commencer ça frette, là.
Mon Dieu, ben oui.
On a demandé des questions aux gens, puis un gars, Blue Evil SNK, qui a demandé, premièrement, bon tournage ce soir, bien hâte de vous entendre. Ma question, après tout ce qu'il a fait dans sa carrière et ce qu'il fait présentement à 48 ans, où placez-vous Chris Jericho dans votre rang des meilleurs de tous les temps? Top 5, top 10, top 25, le champion. Et tu sais quoi? On répondra pas à cette question-là tout de suite parce que c'est pas le segment, mais je voulais quand même la lancer dans les airs parce que 100% qu'on se pogne là-dessus.
C'est sûr. Ça, c'est sûr.
100%.
On pourra jamais être d'accord sur cette question-là.
Ça, c'est le teaser.
Ça marche. À la fin de l'émission, on répond à ça.
À la fin de l'émission, on répond à Blue Evil SNK. Il y a aussi d'autres personnes qui nous ont envoyé des questions, mais ça, c'est la meilleure.
Essaye de pas nommer son nom à chaque fois parce qu'on va manquer de temps.
Hey, c'est la seule bonne blague de Pat Laprade en 2 ans.
Hey, c'est quand même pas pire.
Hey, bonne fête.
C'est une de plus que toi.
C'est notre fête. Ça fait 2 ans qu'on fait la lutte à ouais. Télésport. Donc, bonne fête, Pat.
Bonne fête, Kevin.
N'oubliez pas. Bonne fête, Kevin. Continuez comme ça. Hey, j'aille tellement ce vidéo-là. Vous pouvez nous suivre sur. Après,
j'ai
trouvé ça drôle.
J'ai aucune idée de quelle vidéo tu parles.
Tu connais pas la vidéo Bonne fête, Kevin, Pat Laprade?
Non.
Yo, je sais pas, t'étais au courant des 10 dernières années, là. Mais je sais pas s'il y a des gens qui s'appellent Kevin qui écoutent le podcast, mais ça l'a ruiné nos vies. Allez écouter la vidéo. Bonne fête, Kevin. C'est la première chose qui va sortir sur YouTube.
Ah, pour vrai?
Ouais.
Ah, mais allez voir c'est ça malaisant. Tantôt. OK, cool.
Merci de nous suivre sur Cube, Stitchers, Google Play, Apple Music, Spotify. Oubliez pas de nous laisser un 5-star Frog Splash et des commentaires. Là, il y a beaucoup de nouvelles. On y va tout de suite. Bruce Pritchard remplacera Eric Bischoff en tant que directeur exécutif. Bischoff avait été nommé à ce poste en juin dernier. Il avait même déménagé à Stanford pour être en mesure de remplir ses fonctions. Qu'est-ce que tu en penses, Pat Laprade?
Ben écoute, dès le départ, on disait on était un peu surpris de la nomination de Bischoff, comparativement surtout à celle de Paul Heyman. Bischoff a jamais été reconnu pour son côté créatif. Écoute, Bruce Pritchard est beaucoup mieux outillé, ouais, équipé pour ce rôle-là. Cependant, je veux dire, à quel moment la WWE et Vince McMahon vont aller vers quelqu'un de plus jeune, d'une génération qui est capable peut-être d'avoir un meilleur feel sur qu'est-ce que la foule veut. Puis en non à l'interne de ces gars-là. Paul Heyman, il est resté connecté avec les années. Bischoff, ça faisait des années qu'il suivait plus la lutte. Pritchard, on and off, je te dirais. Ouais. Mais au moins, Pritchard a longtemps été un des bras droits de Vince McMahon avec Pat Patterson dans les années 80. Son podcast était excellent en ce sens-là, mais pour vrai, un Gabe Sapolsky, un Jim Silverman, le gars qui était à Progress avant, puis qui ont engagé temps plein.
Ben, juste
Triple H, ouais. Je veux dire, il y a des gens qui sont beaucoup mieux connectés sur le produit d'aujourd'hui, sur ce que les fans veulent et sur la génération d'aujourd'hui.
William Regal.
Regal, jusqu'à une certaine limite parce qu'il a fait le tour.
Puis c'est lui qui va chercher les gars d'Evolve. Ouais. C'est lui qui.
Ben, est-ce qu'il va chercher les gars d'NXT?
Les gars d'NXT.
Kevin Owens, c'est
William Regal.
C'est William Regal qui l'a vu à PWG. Donc, pour vrai, il y a des gens à l'interne qui sont beaucoup mieux équipés pour faire ce rôle-là. Et je peux pas croire qu'on y va encore avec le passé. Écoute, ça va peut-être être mieux que Bischoff. En passant, là, c'est pas les repêchages, hein, c'est pas le draft, c'est pas rien de ça qui a causé la perte de Bischoff.
Mais non.
Je veux dire, on l'a vu dans les nouvelles, dans les dernières semaines. Vince McMahon arrivait puis déchirait le script de SmackDown puis il réécrivait la même journée. C'était depuis juin, là. C'était pas avant juin, là. C'est arrivé depuis juin. Donc, je pense que Bischoff, c'était peut-être pas sa place. Son rôle a changé aussi à un moment donné. On pensait que c'était plus pour dealer avec Fox. Finalement, non, c'était vraiment vraiment au niveau créatif, mais visiblement, il était pas à sa place. Puis, ben écoute, j'espère qu'il a loué sa maison parce que...
Là, et je pense que c'est le temps de parler des ratings de SmackDown, parce que là, on parle de SmackDown de Bischoff. Donc, SmackDown qui fait un 4.3 la première semaine.
3.88.
Excuse-moi, 3.4. Moi, j'avais calé 4.3, excuse-moi.
Ouais,
moi, j'avais calé 4.3, ils ont fait 3.88. Cette semaine, ils font un 2.8.
2.9.
Ouais, cool. Hey, Pat Laprade.
Hey!
Hey!
Get là, your facts straight.
Ils font un 2.8, 2.9. Là, on s'entend, il n'y avait pas de Rock. Il n'y avait
non.
pas.
Mais il n'y avait pas de Rock, il n'y avait pas d'annonce d'un paquet de monde qui n'était pas là.
Mais il a annoncé le draft.
Oui.
Qui était particulier. En fait, Pat, comment on va parler du draft tout de suite en même temps qu'on parle des ratings, là, parce qu'il a annoncé le draft. Cette semaine, il n'y a rien annoncé. Cette semaine, c'est un vrai SmackDown.
Oui.
Il n'y a pas de match, il n'y a pas rien. Ils ne pourront pas faire 2.9. Là.
Ben,
je peux pas croire qu'ils vont faire 2.9.
Ben, c'est là qu'on va le savoir. T'sais, on le dit depuis le début. La première semaine, les ratings, c'était pas là-dessus qu'il faut se baser pour faire une analyse. Mais c'est pas non plus sur les deux premières semaines. Ça va prendre quelques shows avant de vraiment d'établir une courbe dans une analyse de code d'écoute qu'on peut faire, autant pour SmackDown, Raw, NXT, puis AEW. Écoute, le draft, parlons du draft, là, parce que il y avait-tu quelque chose? Il y avait quelques bonnes choses, mais de façon générale, c'était mauvais.
OK, le draft, c'était le truc le plus scripté de l'histoire des scripts. Moi, là, quand tu dis, allez, maintenant, vous allez réagir comme ça dans le room. Moi, je suis à l'aise avec ça, OK? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Tu montes le room de Fox, tu montes le room de USA. C'est, à la base, c'est une bonne idée. Mais tu peux pas les scripter. Parce que c'est des réactions dans la NFL quand les kids, ils se font drafter. C'est des vraies réactions. C'est ça qu'ils viennent chercher.
Tu peux pas les scripter, puis peux-tu au moins engager des acteurs plus compétents?
Hey, my God!
Pour vrai, là, c'était parmi les pires... Y a-tu quelqu'un à la WWE qui a écouté le film Draft Day? T'as vu Draft Day avec Kevin Costner? Quel bon film!
Ouais.
Tu le vois, c'est quoi un War Room? Ouais. Ils étaient pas aussi excités dans le film quand ils ont tous rapatrié leur premier choix qu'eux autres en repêchant Roman Reigns. Vous l'aviez déjà, Roman Reigns!
Exactement. Le draft était no news worthy. Il n'y avait pas de nouvelles qui est sortie du draft. Tout le monde est allé à la même place. C'est juste qu'on les a séparés comme du monde. Puis
c'est quoi l'idée de faire des pools? Pourquoi tout le monde n'était pas disponible?
Moi, là, l'affaire de Charlotte, là, OK, je savais pas qu'il y avait un pool. Qu'il y avait un pool A puis un pool B. Parce que si tu écoutes la télévision, ils te l'expliquent pas.
Ben, ils te l'ont dit, mais très brièvement.
Non, mais ils l'expliquent pas. Moi, j'ai besoin d'avoir tous les noms d'un côté dans un pool, puis tous les noms de l'autre côté dans un pool. Je veux pas que Michael Cole me dise, ben, il y a un pool A puis un pool B. J'ai pas besoin de ça.
Puis pour vrai, c'était une idée de merde. Parce que, puis là, les gens me répondaient des fois, parce que j'en ai parlé un peu dans ma chronique, puis les gens me disaient, ouais, mais, il aurait pu rester personne à Raw. C'est pas vrai.
Mais non.
Tu fais deux rondes à SmackDown.
Ben ouais.
Ça fait 10 lutteurs, ou lutteuses. Il en reste une belle gang à Raw, là. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont divisé ça, puis ils ont même pas respecté leur pool.
Ben non.
Je veux dire, Lacey Evans. OK.
Ouais.
Moi, je voulais savoir combien de temps ça prendrait avant qu'il y ait déjà des switches. Lacey Evans, vendredi, elle est repêchée à SmackDown. Lundi, elle lutte à Raw.
Ouais.
Elle est où la logique là-dedans? Si tu te fais repêcher par les Pingouins en première ronde le vendredi, le Canadien te repêchera pas en deuxième ou en troisième ronde ou ils t'inviteront pas à leur camp des recrues. Tu comprends? Ça marche pas comme ça. Ils ont voulu le faire très sport, là, tu sais, très connecté
très Fox,
sur le sport.
Très Fox.
Très Fox. Mais en même temps, ils ont oublié des règles de base, là. OK, Alexa Bliss et Nikki Cross.
Frank Riopelle qui apporte ce point-là. Comment USA ont utilisé deux draft picks quand ils ont dit que les équipes, ils venaient ensemble?
Ben oui, mais écoute, Brian Alvarez a fait un tweet qui m'a fait très, très rire, Brian Alvarez, Figure 4 Online, qui dit... OK, le USA Network, la règle, c'était que les équipes venaient ensemble, sauf si les dirigeants...
Ouais,
USA, si tu voulais juste en repêcher un des deux. Fait que là, USA Network gaspille un choix parce qu'il repêche Bliss et Nikki Cross sur deux choix différents.
Ouais.
Mais là, en plus, ils les échangent.
Ouais.
À WWE Backstage, mardi, ils les ont échangés à SmackDown. Puis là, ils font une grosse annonce, là. Il va y avoir un trade qui va être annoncé à Backstage. OK, parfait. Tu veux hyper l'affaire. C'est le premier trade depuis le draft. Parfait, je la jette. Fais-moi un trade. Tu sais-tu pourquoi? Tu sais-tu qu'est-ce qu'ils ont obtenu pour Bliss?
Des choix. Des futurs choix, excuse-moi.
Des futurs choix. Des compensations futures.
Pour un draft qu'on sait même pas s'il va y avoir un draft dans un mois parce que là, tu sais, moi,
c'est. On sait même pas s'il va y avoir un autre draft.
Moi, là.
C'est la chose. Honnêtement, le USA Network est probablement le pire DG de l'histoire des DG. C'est complètement ridicule. Tu gaspilles un choix, puis en plus, tes échanges pour absolument rien. Mike Milbury aurait pas fait pire.
Mike Milbury était pas bon.
Non, mais il était meilleur que ça. Il y a eu quelque chose pour Luongo, au moins.
Wow, Luongo trade. Mais moi, mon point, là, c'est que t'as AEW qui veut te donner quelque chose de sport. Là, oui. un sports field. Là, t'as SmackDown qui essaie de faire la même chose. T'as AEW qui réussit à 100 000 à l'heure le mercredi.
Absolument.
C'est normal qu'on compare avec AEW SmackDown en ce moment.
Ben, honnêtement.
SmackDown est même pas proche. NXT est même pas proche. Raw est même pas proche.
Honnêtement, NXT est même plus le show sur lequel je compare AEW avec.
Ben, c'est parce que c'est même pas proche.
Tu peux même pas. Quand tu regardes les deux shows, là, NXT, là, c'est
encore un
cube écran. Ça paraît que c'est tourné devant 400 personnes.
Mais ça me dérange pas parce qu'on va en parler tantôt de NWA Power.
Oui.
Mais mon point, c'est que NXT, c'est encore des ligues mineures. Il y a encore des matchs qui ont pas d'affaires là à la télévision, qui sont là. Il y a encore des angles qui ont pas d'affaires à la télévision, qui sont là. Tu peux pas prendre ça pour compétitionner contre AEW parce que t'es dans le champ. Là.
Mais oui, t'as raison. Par contre, ça, ils sont capables d'avoir... C'est peut-être le seul brand qui est capable d'accoter le work rate de Dynamite. Tu verras pas un Adam Cole contre Matt Riddle à Raw ou à SmackDown. Par contre, pour moi, le visuel est très important. Puis oui, NWA Power, c'est autre chose, mais NWA Power, c'est sur YouTube aussi. C'est pas genre à USA Network, prime time les mercredis. Ouais. À un moment donné, il faut que le visuel marche. Tu sais, faut c'est quoi l'expression? Faut que les culottes marchent avec la chemise. Ouais, là, il y a
pas tes culottes.
Ah non, mais il y a une expression qui ressemble à ça, là. Mais il faut que ça marche.
Puis
là, et là, NXT a pas ce vibe-là, ce feel-là. Et AEW, tu regardes, puis même s'il y a 6000 personnes, ça a l'air d'un aréna, ça a l'air grand. Et NXT, ce qu'on fait, on ferme les lumières pour les gros matchs de championnat. On avait fait ça la semaine 1.
C'est une bonne idée.
Moi, j'ai pas aimé ça. Tu sais pourquoi? Parce que oui, l'idée sur papier, elle est bonne, mais à un moment donné, quand tu la regardes, là, il y a les spotlights uniquement sur les deux lutteurs, right? Ouais. Sur, mettons, le champion et son aspirant. Tout le reste est black et out.
Ouais.
Et là, la foule réagit à l'annonce parce qu'ils font des intros japonaises. Puis t'en vois pas la foule réagir. C'est-tu poche?
Non, mais tu veux pas la voir, ils sont 400.
Ben oui, mais au moins, ceux que tu vois devant la caméra, tu veux les voir réagir, tu veux pas juste les entendre. Mais l'écouter à la radio, le match de bord, là.
Pat, il est fâché pour
le
podcast.
Ben non, mais pour vrai.
Man.
Big body slam!
Pat n'est pas de bonne humeur.
Pour vrai?
Je te comprends,
un
man.
Un big body slam à la WWE pour tout ça.
Mais ça va pour vrai, là... Hey, j'ai écouté, puis on va en parler tantôt. Là.
Les Usos, je comprends qu'ils ont des démêlés avec la justice. Ils sont pas draftés.
Hey.
Ils sont. Naomi, elle n'est pas draftée.
Mais Naomi, elle a mis un post comme quoi elle avait des démons, qu'elle les a surpassés, elle avait des défis.
Je comprends. L'affaire des poules. Umberto Carrillo, il est sur le pool du vendredi. Et bizarrement, il n'est pas repêché. Techniquement, les règles disaient qu'il deviendrait free agent, le joueur autonome.
Ouais.
Mais il s'est fait repêcher quand même le lundi.
Mais regarde,
il a-tu changé de pool? On nous l'a pas dit. Akira Tozawa était pas non plus dans le deuxième pool. Il a été repêché.
Je veux dire, c'est
n'importe quoi.
À quel point on vient de dépenser trop de temps sur un draft que eux autres, ils ont pas dépensé de temps pour. Donc,
c'était-tu difficile d'avoir les gars live qui sont contents d'être draftés au lieu d'avoir... J'ai aimé le fait qu'on donne des stats sur les lutteurs.
Oui, ça, pis, c'est bon.
Pis ça paraissait ceux qui étaient pas planifiés parce qu'il y avait zéro stats. Ouais. Mais je veux dire, avoir un... t'es le premier choix, là. Seth Rollins est le premier choix. Tu peux-tu le faire venir au podium?
Ouais.
Tenir une pancarte de Raw, je veux dire, Colin, il y a des beautés au banquier. Il était plus excité que ça dans la vie. Tabarnouche, à un moment donné...
Come on!
Mike Bennett demande son release à la WWE. Il l'a fait publiquement. Mm. Il a fait un gros message sur Twitter.
Mike Bennett.
Bon, là...
Quel idiot!
Lui, il a signé un contrat au mois de juin, un contrat de 5 ans.
Oui. Là, on est en octobre, on est 4 mois plus tard.
Mike Bennett, je sais pas comment t'expliquer ça. Je sais pas si t'as écouté Suits, Mike Bennett. Je sais pas si t'as écouté l'émission avec la madame Lorraine, Sophie Lorrain, là, qui jouait à TVA, l'émission d'avocat, là. Mais
si j'écoute pas les émissions de vieux, fait que je peux pas te dire.
C'était une bonne chose, là. Sophie Lorraine, respect. Mais si tu signes un contrat,
ouais,
puis que ça fait plus ton affaire,
ouais,
tu peux pas faire ça.
C'est ben, je veux
aussi
dire,
simple que ça.
Tu peux le demander.
Tu peux demander ton release. Mais de la façon qu'il l'a fait, il y a juste l'air d'un bébé là, d'un bébé gâté. Là, il a reçu plein d'argent parce que là, il n'y avait pas qu'à aller dans AEW. Il a reçu plein d'argent. Puis là, monsieur, il n'est pas content du storyline. Quand tu as signé, tu pensais quoi? Tu faisais rien avant. Je pensais quoi quand tu as signé?
Ben, écoute, ce qu'on sait pas, puis bon, je vais couler down ce que je viens de dire parce que oui, il est idiot pareil de faire tout ça. Mais en même temps, est-ce qu'il s'est fait promettre des choses qu'il n'y a pas eu en bout de ligne? Ça, ça se pourrait. Mais en même temps, c'est rare que la WWE vont promettre ce genre de choses-là, surtout un gars comme Mike Bennett.
Man, si tu,
moi, je ne pense pas qu'il s'est fait promettre rien.
Mais, non.
Mais c'est sûr qu'en même temps, il savait pas qu'il était pour être dans un storyline comme ça. Mais à un moment donné, tu as signé un contrat de 5 ans.
T'sais?
Assume. Je veux dire, prends ton argent. Là. On a tout dans nos vies, là, eu des moments à nos jobs où ce que ça allait moins bien, où on voulait quitter, puis à un moment donné, tu fais comme, ouais, OK, mais tu sais, je suis quand même bien payé, puis ah, tu sais, m'attendre un peu, puis ça arrive, je veux dire, ça fait 4 mois, attends au moins que ça fasse 2 ans, puis si t'es vraiment, vraiment plus heureux, ben OK, essaye de demander ton release, mais tu penses quoi? Qu'ils vont te donner ton release, puis après ça, toi, tu vas t'en aller à la compétition?
Non, mais...
Voyons, puis je comprends que le gars veut lutter, puis il veut lutter davantage.
Mais il était à 205 cette semaine!
Mais à quelque part, et tu l'as signé le contrat, c'était à toi de pas le signer,
ah,
ou c'était à toi de demander des garanties,
ah, c'est ça.
C'était à toi, je veux dire, à un moment donné, ouais, c'est ça.
Et à quel point Mike Bennett a pas de poids? Je sais que Luke Harper il a essayé, ça a pas marché. Ouais. Je sais que Leo Rush l'a fait, puis il y a eu un push.
Le Revival sont partis chez eux. Sasha Banks a eu un push.
Sauf que c'est
le seul qui a eu son release, c'est
Sean Spears.
C'est Sean Spears.
Puis là, il est big time à AEW. Ouais, là.
Exact.
Puis il est plus gros que ce qu'il était à WWE.
Mais tout le monde sera pas big time à AEW. À un moment donné, ils ont un maximum de gars autres aussi qui peuvent embaucher.
On reparlera des AEW, mais j'aime beaucoup de la façon qu'ils gèrent leurs affaires.
Oui.
Moi, là, AEW, la façon qu'ils gèrent ce roster-là...
Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent pas non plus signer 72 gars.
Non, mais c'est pas WWE. Ils vont en signer peut-être 10 autres. Ah, gars et filles, là, parce qu'ils ont besoin de filles.
Mais c'est pas nécessairement... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que Mike Bennett lâcherait la WWE.
Ah, non!
Il serait nécessairement embauché et donner un rôle important dans une autre compagnie.
Non.
Dans une autre compagnie, oui. AEW, non.
Non, c'est plus dire, Impact ou
Impact,
Power.
Ring of Honor. Il peut retourner à Ring of Honor. Ouais, c'est un ancien champion.
Ring of Honor avec... Est-ce que tu sais combien de gens ils ont acheté le Ring of Honor, le dernier pay-per-view?
En pay-per-view ou en streaming,
en
tu veux
pay-per-view.
Dire? Pas beaucoup.
800.
Ouais, mais en streaming, ils ont fait plus.
Non, je comprends, mais tu comprends ce que je veux dire, là?
Oh, ouais, absolument. Absolument. Hey, en passant, shout-out à notre boy PCO qui va avoir un match de championnat à Final Battle.
Ben,
petite affaire, son contrat finit le 1er décembre et Final Battle est le 13 décembre. Fait que faut-il encore qu'ils s'entendent parce que pour l'instant, le contrat de PCO est pas est toujours pas signé.
Si vous entendez des gens crier, là, c'est parce qu'il y a un podcast qui est enregistré de l'autre côté de podcast de jeux vidéo.
Et les gars parlent plus fort que Kevin Raphaël et moi réunis.
Ouais, et j'ai tellement le goût de crier en ce moment, mais je veux pas crier dans vos oreilles. J'ai beaucoup de respect pour vous autres. La carte de Crown Jewel, OK, elle a été updatée. Et on va y aller rapidement. Là. Premièrement, la conférence de presse de Crown Jewel, la pire conférence de presse de l'histoire. OK, Cain Velasquez peut pas parler pour 2 scènes. Tyson Fury peut pas parler pour 2 scènes. Il peut parler dans un contexte de boxe où il n'est pas scripté.
Exact.
Arrêtez d'y mettre des mots dans la bouche.
C'est-tu de valeur?
Là, après ça, il essaie de faire des angles avec des réactions de foule, mais c'est des journalistes. Eux, ils respectent leur travail. Ils n'iront pas faire des réactions de foule. Fait que tout tombait flat. Là, après ça, Triple H, ça va nous donner de la... Moi, là, je suis tanné de Crown Jewel, OK? Là, Daily Mail, l'affaire de même, là, ils ont rapporté que Tyson Fury fera peut-être 15 millions.
Ah, le Daily Mail, le journal au UK. Ouais, OK, je sais
pas.
Ben oui, mais c'est sûr.
Non, mais Braun Strowman contre Tyson, c'est le pire feud.
Comment il s'appelle le boxeur?
Floyd?
Joshua.
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 Ouais.
Anthony Joshua. Ce qui est sorti, c'est pour parce qu'il va aller se battre, lui aussi, ouais. en Arabie Saoudite. Et il va avoir supposément 75 millions pour aller se battre là-bas.
C'est incroyable.
José, ils ont de la... José, on s'entend, là. Je comprends que, bon, 75 millions,
non,
là...
Non, c'est life-changing.
C'est dur. Ouais. En vraiment maudit de refuser ça. Là.
Ah ouais? C'est ça.
Mais je vendrais ma mère pour 75 millions.
Ouh!
Mais je la rachèterais après.
C'est ça.
300 000. Je fais quand même un profit. Tu sais.
Pas si tu dois faire ça. Mais tout ça pour dire que les conférences de presse à la WWE, et je compare encore avec AEW, les deux. Ouais. AEW a encore l'avantage. On a vu le angle avec Cody Rhodes. Puis, Cody Rhodes.
Là, tu sais qu'on va se faire dire qu'on est anti-WWE.
On n'est pas, on n'est pas anti-WWE. Quand ils font des bons coups, on le dit.
Absolument.
Quand ils font des mauvais coups, on
puis
va
quand
le dire.
Quand AEW fait ou va faire des mauvais coups, on
va
le dit, puis on va le dire.
Ben je pense que depuis le début des antipodes de la lutte, s'il y a une chose qu'on peut pas nous reprocher, même si t'es pour ou contre nos opinions, c'est qu'on les back, on les tient, puis on a des arguments pour.
Absolument.
Là, WWE font absolument rien de bon. Il n'y a rien de bon. Il n'y a pas un storyline que je crois, hey, j'ai hâte de voir. À part NXT, là, que j'ai vu Tommaso Ciampa, puis on va parler tantôt de Tommaso Ciampa.
Ils ont réussi à dropper Bray Wyatt.
Ben
pas le personnage, ouais. Mais
le storyline.
On va y revenir après ça, par contre. OK, Crown Jewel. Brock Lesnar contre Cain Velasquez. Pour vrai...
Pour le titre de la WWE.
J'aime l'histoire derrière. Ouais. J'aime qu'on ait amené des images du UFC, ouais. Et tout ça. Ça l'explique pourquoi il se bat contre Brock. Ce que j'aime pas, c'est Crown Jewel. Pourquoi on n'a pas teasé ça? Pourquoi on n'a pas donné une coupe de match à Cain Velasquez avant de l'amener contre Brock? Ça, là, main event de WrestleMania, je l'aurais acheté. Cain Velasquez aurait été plus connu. Parce que là, les gens disent, tout ce qu'ils voient de Cain Velasquez, c'est, ah ouais, mais il est out of shape. Non, man, il est pas out of shape.
Non.
Il avait cette shape, une shape semblable au UFC. Et, on l'a vu à Triple A. Puis il va devenir bon. Là, tout le monde voulait le signer. New Japan, AEW. Ouais. Hey, tout le monde voulait signer Cain Velasquez. Là. Tout le monde n'est pas fou. Donc, pour vrai, je trouve juste ça de valeur que ça va être un show, un jeudi après-midi, que genre tout le monde se fout un peu.
Puis rapidement, il a fait une entrevue avec Ariel Helwani.
Un gars de Montréal, Ariel.
Oui, ouais, un gros fan de l'Expo. Puis il ne portera pas son masque pendant les combats, fait que ça va être un no mask Velasquez.
Ben parfait, tant mieux, il est mieux connu sans masque.
Puis là, on lui a parlé de son attel, il a dit que Stone Cold Steve Austin avait aussi un attel au genou, donc c'est pas plus grave que ça. On parlait de
Kevin Owens, depuis je le connais, qui a des problèmes de genou, puis il est encore là.
Aussi, il a été dans son personnage, là. Il a parlé de Dominic, puis de... Ça, c'est la seule affaire que jaillit des conférences de presse. On peut avoir une vraie conférence de presse avec des petits angles, mais on voit les vraies personnes. Tu fais une entrevue pour ESPN, c'est pas le personnage que je veux voir, c'est ça, le gars derrière. Puis bon.
J'ai déjà fait une entrevue avec Damien Sandow. Tu te rappelles de Damien Sandow?
Ouais, en character?
Ah, il était en character tout le long. Je savais pas comment réagir. Peu importe ce que j'ai amené comme question, il répondait en personnage. Pour vrai, là, ça a été ardu faire cet article-là. C'était pour Slam Wrestling. Il faudrait que je le relise. Mais hey, j'avais trouvé ça ordinaire.
Ça sert à rien.
Ouais. Braun Strowman contre Tyson Fury. Ah, écoute.
Tyson, il a pas l'air à l'aise dans un ring de lutte.
Ça va soit être vraiment pas genre Mohamed Ali, Antonio Inoki, ou soit ça va être surprenant Floyd Mayweather, Big Show. Je ne sais pas encore.
Seth Rollins, Bray Wyatt, je ne veux plus jamais entendre parler de ce feud-là. Après ça, Team Hogan.
On a Seth Rollins, Rusev, Ricochet, Aleister Black et quelqu'un qui va être annoncé comme Team Flair, Randy Orton, King Corbin, Shinsuke Nakamura, Bobby Lashley et aussi il manque quelqu'un dans l'équipe. Mais là, par contre, si vous nous avez bien écouté, Seth Rollins est là deux fois. De ce que j'ai lu, Seth Rollins va juste être contre Bray Wyatt et ne sera plus le capitaine de l'équipe Hogan. Donc, tu vois, ils sont même pas capables de tenir un scénario là, qui date de trois semaines. Cesaro contre Mansour.
Ça va être un très bon match. Mansour est très bon.
Il est bon.
Mais
il va avoir un pop parce que c'est le gars local.
Mais ça va ressembler au match que Cesaro avait eu dans le UK, là, sur la carte du UK, que moi, c'était mon match de la soirée. Ou un des matchs.
Ben oui,
match
parce que Cesaro est capable de traîner un gars. Oui, absolument.
Là, après ça, mais tu sais, c'est tous des matchs, man.
On a un tag team
sans
turmoil.
Sans importance,
ben oui.
Sans valeur, sans ça. C'est des Natalia matchs, man. OK? Ça sert à rien. Je vais pas l'écouter.
Le tag team turmoil, on s'entend. New Day, Viking Raiders, Heavy Machinery, Lucha House Party,
okay.
Ryder Hawkins, okay. Revival, OC, Ziggler Rude, puis B-Team.
Hey, man, prends mon argent.
Ben, hey, j'ai hâte de voir ça. Hey, ça va être le fun. Ouais. Hey, on a eu un blanc. Il y a un blanc, non, là, à quel point on est découragé.
Je suis découragé. Même ouais.
Exaspéré.
Tu sais que j'ai même pas écouté.
Envoyez-nous vos qualificatifs.
Tu sais, j'ai même pas regardé le run. J'ai écouté Raw hier.
Ouais.
C'est la première fois que j'écoutais pas Raw un lundi.
Wow.
Depuis très longtemps. Moi, d'habitude, je l'enregistre, puis mettons, je sors, whatever. Ouais. Le soir même, je vais l'écouter, je vais le passer. Ou mettons, le mardi matin. Yo, là, j'ai repoussé Raw jusqu'à mardi soir. Là.
Wow.
Puis la seule raison que je l'ai écouté, puis je vais être franc avec les gens, même pas. C'est parce qu'on fait le show. C'est la seule raison pourquoi je l'ai écouté. J'ai même pas regardé le run sheet de ce qu'on va dire tantôt. Puis je t'ai dit, il y avait rien de bon à Raw. Il y a rien que je peux dire.
Juste pour préciser, on n'a pas vraiment un run sheet de ce qu'on va dire. On a plus un run sheet de ce qu'on va présenter.
Ouais, des matchs.
On n'est pas scripté. Non, mais pour pas le monde pense qu'on commence à être scripté, nous autres aussi. OK.
Finn Balor qui est sur la route. Bon, NXT, comment tu trouves?
Ben, écoute. NXT, première semaine, ça avait le meilleur match. NXT avait le meilleur match avec Matt Riddle contre Adam Cole. Tu sais, ils ont sorti un takeover là, pour leur premier show. Là. Tous les championnats étaient là. Bon, ça a été un gros show. Semaine 2, on voit déjà la différence.
Ben, c'est le American League.
Et c'est pas seulement American League. Là, parce qu'il y a des gars là-dedans qui sont très talentueux et qui seraient sur le main roster bien bookés et qui auraient d'affaires sur le main roster.
Ça, c'est des gars qui sont... Il y en a quelques-uns. À AEW, chaque segment, c'est des stars. Ou des stars in the making. Il y a personne... Il y a aucun segment laissé aller à la AEW. Ah,
mais ça, c'est de la façon qu'ils sont scriptés et qu'ils sont bookés. Parce que pour vrai, Darby Allin ou Walter, il est pas... Je veux dire, moi...
Mais Walter, je le calcule comme une star.
Oui, OK.
Mais mettons, il y avait un match de filles, là...
Vanessa Bourne contre Rhea Ripley.
Là, je suis comme... Ripley, pour moi, c'est une méga star.
Oui.
Puis elle devrait se battre contre Becky. Ce serait le plus gros challenge de Becky. Puis ce serait quelqu'un que ça serait plausible que Absolument. Becky perde le titre contre.
Absolument.
Là, t'as fait se battre contre des nobody qui ont de la misère à faire des drop kicks.
Mais tu sais, les Forgotten Sons, par exemple, ça l'expose NXT, ben tant qu'à moi.
C'est ça. Puis on est à la même place.
Ensuite, Boa, Cameron. Ben, OK, ça, c'était un squash match. Là, c'était différent. Là, c'est correct. Là, t'es pas pour. Tu sais, ça te prend un job guy pour avoir des matchs de même. Mais moi, je le compare avec AEW, mettons. OK? C'est de même que je vais t'expliquer mon NXT. Où était la meilleure lutte?
Overall. Attends, AEW.
Le meilleur match, est-ce que c'était Lio Rush contre Drew Gulak ou c'était Private Party dans les Young
Private
Bucks?
Party.
OK. Qui a fait le meilleur segment de promo? Chris Jericho ou Adam Cole?
Chris Jericho.
OK. Le visuel, j'en ai parlé. AEW, ça a l'air Ligue majeure. NXT, faut vraiment, je pense, qu'ils sortent de Full Sail. Je pense que c'est rendu nécessaire. Fait en bout de ligne, AEW remporte la palme sur NXT.
Ben oui, facile.
Je veux dire, c'est un constat, là. C'est pas un parti pris, c'est un constat. Et ça veut pas dire qu'NXT, c'est de la merde, là. C'est pas ça qu'on vous dit. NXT, je veux dire, c'est quand même mieux booké que ce qu'on voit à Raw ou à SmackDown.
Je vais t'expliquer quelque chose, OK? AEW, je l'écoute le mercredi, parce que j'ai pas envie de me faire spoil.
Oui.
NXT, je l'écoute le samedi.
Je comprends. Mais
c'est pour ça
que je te dis que AEW, moi, je commence à comparer ça beaucoup plus à Raw ou à SmackDown. Parce que t'as le feel d'un gros arena. C'est super bien booké. Il y a le côté sportif. J'adore l'affaire des victoires, des fêtes.
Ah, oh, man, j'adore montre, ça.
Non seulement simple. En simple. Ouais. Tu parles de c'est simple, mais on le voit en simple. On le voit en équipe ou overall aussi. Ça, j'adore ça. On essaie de nous vendre, là. C'est qui à WWE? Viking Riders. On nous a dit, sont invaincus. Ils ont remporté les titres par équipe, puis ils sont invaincus. Ouais. Ils sont pas invaincus. Ils sont invaincus si t'enlèves les défaites par disqualification.
C'est ça.
Si t'enlèves les défaites dans des 3 contre 3.
C'est ça.
Puis si t'enlèves les défaites dans les house shows. Ah oui, OK, là, ils sont invaincus. Tabarnouche, combien d'affaires faut que t'enlèves avant que quelque chose soit invaincu? Tu sais, à un moment donné, ah ouais, lui, j'ai même pas d'exemple à te donner tellement c'est mauvais.
À un moment donné, il faut qu'on comprenne que il y a en fait, je vais recommencer. Il y a New Japan Pro Wrestling, il y a AEW et il y a la WWE en ce moment. C'est tout.
Ben, ça ressemble à ça. Puis WWE m'a le scindé parce que, encore là, les histoires font beaucoup plus de sens à NXT qu'à Raw ou à SmackDown. Hey,
Tommaso Ciampa, c'était malade sa promo, là. Quatre lignes. Même pas, c'était deux lignes.
Oui.
Tu sais, Velveteen Dream, ses promos sont exceptionnelles.
Ah, ça, je suis pas d'accord, par contre.
Mais moi,
Velveteen
j'aime le...
Dream, je trouve que c'est son point faible, les promos.
Au contraire, man.
Son charisme fait en sorte que ses promos sortent mieux qu'elle devrait sortir en temps normal.
C'est pas lui qui scripte ses promos, là.
Je comprends, mais...
C'est lui qui, avec son charisme, qui rend la promo bonne ou très bonne. Là. Moi, je trouve qu'il fait très bien.
Ouais, moi, je jette pas encore Velveteen Dream au micro.
Fait que NXT est derrière.
AEW. Oui, absolument.
Bon, là, c'est mon segment. Let's go! Mon petit segment, New Japan Pro Wrestling.
Je m'attends toujours que Carrie Underwood ou Shania Twain se mettent à chanter en japonais là-dessus.
Yo, j'ai mon beat! OK, rapidement, King of Pro Wrestling 2019. Ça, dans le fond, c'est comme leur dernier gros pay-per-view avant Wrestle Kingdom, qui va être le 4 et 5 janvier, parce que cette année, ils scindent les deux. En fait, cette année, ils font deux.
Deux Wrestle Kingdom. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça parce que c'est une idée que WrestleMania pourrait aussi prendre éventuellement.
Ouais, mais la deuxième soirée à WrestleMania sera pas pleine comparée à Wrestle Kingdom parce que je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé à King of Pro Wrestling. C'est là qu'on établit souvent ce qui va se passer. Tanahashi, Onma contre Makabe Yano, c'était les 30 ans de Tanahashi. C'est un match qui veut rien dire, mais par contre, c'était les 30 ans de Tanahashi.
Les 30 ans?
30 carrières. Ah, 30 ans de carrière.
30 ans de carrière?
Ouais, pour Tanahashi, ouais.
30 ans de carrière?
Il a commencé en 99.
Ça fait 20 ans.
OK, c'était les 20 ans de carrière de
Wow! Wow, que t'es mauvais!
C'était les 20 ans...
Ça a aucun bon sens.
Hey.
Ah, oh, qui fait tes impôts déjà, Manu?
T'as bien beau huer,
hey,
là.
Manu,
mais
là.
Je me suis pas trompé dans les noms japonais, puis il y en avait quatre dessus.
Ah, oh, ben non, c'est sûr, tu t'es trompé dans une équation simple qu'on apprend en deuxième année.
99,
c'est qui ton prof de deuxième année?
Deuxième année, je sais pas, mais en quatrième année, c'était Valérie.
Ah, ben, Madame Valérie, là, si elle nous écoute, elle serait pas fière de toi,
mon gars.
Je te
confirme qu'elle nous écoute pas. donc, c'est vraiment un nothing match. Tanahashi a eu le dessus sur Yano. Mais moi, ce que j'ai hâte, c'est que Tanahashi, en ce moment, il y a aucune histoire vers Wrestle Kingdom. Je sais pas contre qui il va se battre, donc j'ai hâte de voir là-dessus. Je veux juste vous dire les matchs qui sont importants de cette carte-là. Suzuki a battu Jushin Thunder Liger pendant que Liger était en Warrior Liger. Donc, c'est surprenant que Suzuki le batte parce que maintenant, Suzuki, son contrat est presque fini avec New Japan Pro Wrestling.
Il va s'en aller nulle part d'autre.
Non, il y a des rumeurs qu'il l'envoyait chez Noah ou il y a des rumeurs qui disaient qu'il voulait prendre des dates aux États-Unis puis au UK où il est une méga star.
Tu savais que la WWE avait essayé d'acheter Noah?
Ah ouais, je savais pas ça.
Ouais, parce que il paraît que NXT Japan, c'est vraiment le NXT, le prochain NXT qu'ils veulent développer.
Ben, ils vont s'en manger entre autres, Japan.
Entre autres, en pourparler pour acheter Noah, mais ça n'a pas fonctionné.
Ben, c'est ça. Donc, Suzuki, son contrat termine bientôt. Donc, pourquoi il a battu Jushin Thunder Liger? Parce que là, on se disait, ça, il allait pas se rendre à Wrestle Kingdom. Liger prend sa retraite après Wrestle Kingdom. Selon moi, ça va être le main event du deuxième show.
Mais Liger prend pas sa retraite, justement, le deuxième soir de Wrestle Kingdom.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est peut-être le main event de cette deuxième soirée-là. Donc, qu'ils battent, que Suzuki le batte, je suis un peu surpris. Puis après ça, dans les conférences de presse, Suzuki et Liger ont confirmé, ou presque, qu'ils allaient s'affronter à Wrestle Kingdom, qui s'en vient. Ospreay face à El Fantasmo, match of the year, ou top 5 match of the year.
Ah, pour vrai?
Allez voir
j'ai
ce match-là.
J'ai pas eu la chance de l'écouter
là, pour le si Will Ospreay, c'est pas votre lutteur de l'année, je sais pas qu'est-ce que vous prenez, je sais pas qu'est-ce que vous buvez, je sais pas qu'est-ce que vous sniffez.
Ben,
mais
si quelqu'un ne l'a pas regardé de l'année, ça se pourrait que ce soit pas lui.
Yo, va voir Will Ospreay.
Ouais,
arrête
ça,
ce que tu fais, là. Le gars va avoir fait toutes les... Il fait le Tag League aujourd'hui.
Ouais.
Il va avoir fait tous les tournois, là. Lance Archer, c'est le nouveau champion US. Il y avait eu tout un G1. Je suis vraiment content. Là, il y a eu une petite controverse parce que Dean Ambrose s'est pas rendu au Japon.
À cause du typhoon.
Exactement.
Là.
Donc, Dean Ambrose se rend pas au Japon. Donc, ils mettent Art...
Dean Ambrose, tu veux dire John Moxley.
Oh, c'est Dean Ambrose, excuse-moi.
Ben, non seulement excuse-moi, tu l'as dit, mais fois. C'est ça que tu as écrit.
Ouais, excuse-moi.
Ouais.
Lance Archer se bat à la place de John Moxley face à Juice Robinson. Moi, j'étais sûr que Juice Robinson a gagné la ceinture.
Ouais.
Mais non, man, un gros match. Pas de règlement, mais un gros match. Puis...
Mais je suis comme... Moi, j'ai regardé ça et j'ai dit... Y a-tu de la politique en arrière de ça? Parce que AEW, New Japan, ça marche pas. Et là, on enlève le titre. Parce que, oublie pas, là, à AEW, on n'a jamais mentionné que John Moxley était champion US à New Japan.
Ouais, mais donc, les finishing moves sont même pas pareils. C'est deux personnages différents.
Je le sais, mais c'est quand même le même gars, là.
Ouais, mais est-ce que
il y a quand même de la politique en arrière de ça? New Japan en a profité de l'absence. Parce que pour vrai, là, il était pas obligé de mettre le titre vacant, là. Il aurait pu faire un number one contendership entre les deux, puis ça aurait été bien correct, là.
Moi, je trouve que ça rajoute à l'histoire parce que faut vraiment je travaille là-dessus.
John Moxley
avait dit, moi, mon contrat finit en 2020 avec New Japan, mais je veux faire Wrestle Kingdom. Donc, tu veux avoir, tu sais, si t'as deux stades à remplir, là, tu veux avoir un dernier match de John Moxley, même s'il va perdre. Donc,
ouais, mais d'abord, le titre,
ben
d'abord.
Non, parce que là, tu viens de build Lance Archer, puis là, il y a des shows aux États-Unis de New Japan, là, dans les prochaines, tu sais, il y avait Philadelphie, il y avait New York, dans les prochaines semaines, il y a des shows aux États-Unis, New Japan. Fait, là, t'as Lance Archer qui est champion, qui, moi, c'est mon most improved, c'est Lance Archer. Tu peux faire le match contre Juice Robinson plusieurs fois. Là, il y avait un autre facteur que je Chris Jericho qui a dit qu'il voulait faire, t'sais, la rumeur, c'est contre Tanahashi à Wrestle Kingdom. Là, ça c'est aussi, c'est main event caliber. Là. Donc, c'est ça. Ibushi a battu Evil pour prendre revanche à sa défaite lors du G1 Climax. Puis Okada a battu Sonata. Sonata, là, pour un excellent match. Sonata, là, c'est le prochain. Je m'excuse, là, mais si je vous dis Will Ospreay a eu une grosse année, Sonata, il a eu une plus grosse année qu'Okada. Parce qu'il y a eu... Il n'y a aucun match de Sonata qui n'est pas bon.
Mm-hmm.
Aucun. Fait que moi, je vous dis, allez voir en mais premier là, Will, puis après ça, allez voir Sonata.
Mais le Wrestle Kingdom, le premier soir, le 4 janvier, ouais. C'est Okada contre Ibushi.
Ouais, parce que dans le fond, le match entre Ibushi et Evil, c'était aussi pour savoir qui allait affronter Okada.
Mais ça, Okada-Ibushi, là, prenez mon argent pour vrai. Là.
Match of the year. Match of the year.
Ouais, puis ça, tu commences l'année avec ça, là.
Donc, ouais. J'ai bien, bien hâte. Après ça, il y a des gens qui rentrent dans le studio
pour ouais.
Faire des podcasts. Ouais, le respect non. Est où
pourquoi?
Ici?
Bardons la porte, là. Barre la porte.
Le respect est où ici? Les gens crient de l'autre bord. Après ben ça, oui. Ici, les gens...
Puis hey. après ça, c'est toi puis moi qui crie puis qui est pas mature. T'sais? Hey!
En come on!
Hey, parapluie Chambly est pas arrivé.
Allez, continue.
Donc c'est ça mon résumé pour
ben, très bon résumé, j'aime toujours
j'ai
ça.
Fou, fier
ouais, pour vrai, c'est ton meilleur résumé à date.
Mais c'est parce que j'aime on dirait que je suis tellement saturé de la WWE que j'apprécie vraiment plus ouais. New Japan Pro Wrestling. Puis je l'ai écouté, il était tôt, man, mais j'ai eu du plaisir à l'écouter, puis j'ai vraiment hâte d'écouter Wrestle Kingdom le 4, le 5, puis j'ai hâte de voir les choses aux États-Unis, je vais les regarder, on sait jamais. Peut-être que John Moxley va show up, peut-être que Chris Jericho va show up, parce qu'il faut qu'ils build les matchs pour Wrestle
ouais,
Kingdom.
Mais je pense qu'ils n'ont pas le droit contractuellement parlant.
Mais j'ai hâte de voir. Parce que, tu sais, Tony Khan avait dit, on lui avait posé la question après le scrum du dernier AEW, puis il avait dit, on n'a pas parlé à New Japan, mais on est ouvert.
Oui, c'est sûr qu'ils sont ouverts. Ils vont toujours être ouverts. Surtout que New Japan et Ring of Honor, ça marche de moins en moins.
Ouais. Oh
mais
my God.
En même temps, je ne penserais pas qu'on aille là du côté de New Japan.
On va passer une nouvelle rapidement. J'ai fait 40
minutes. Mais c'est correct. Okay, continue. C'est correct. On arrête de dire rapidement. C'est ton mot préféré. Tu dis rapidement à peu près 8 fois dans le podcast. Okay. Fait que laisse faire. Là. Les gens nous écoutent. Là, ils ont du fun. Vous me répondrez pas. Là. Je vous entends pas. Mais est-ce que vous avez du fun à nous écouter? Oui. Fait que continue. Là. Vas-y.
NWA Power. Parce qu'il y a 3 R à Power. Bon. Oh, quel show! On dirait Glow, mais avec des gars.
Oh, donc, c'est mauvais.
Non, je parle du feel, parce que c'est dans ce
ah, okay.
C'est dans un petit studio. Il doit y avoir quoi, 100 personnes dans l'aréna?
Oui, mais c'est des studios shows, comme il y avait dans les années ouais. 70, début 80,
c'est
comme il y avait
malade.
À Sherbrooke, au palais des...
Ouais.
Sherbrooke, c'était comme ça, puis bon...
Malade. Ouais. Là, moi, je trouve que c'est un beau clash entre ce qu'on voit avec AEW, WWE et New Japan.
Ouais.
C'est plus petit. Et là, cette semaine, on a eu l'arrivée de Damien Sandow. On a vu Mr. Anderson, Cole Cabana. Donc, Anderson et Cabana sont ensemble. Nick Aldis face à Tim Storm. Wow. Trevor Murdoch. Ça faisait combien de temps que j'avais pas vu Trevor Murdoch? Il m'a donné un match correct face à Ricky Starks. Donc, les promos sont exceptionnels. C'est pas la lutte qui est mise de l'avant. C'est les promos sont bons. Puis, tu vois qu'ils sont pas scriptés. tu vois qu'ils ont des... Nick Aldis, là, c'est une star, là. C'est un gros poisson dans un petit bocal, puis il fait très bien, donc.
Moi, j'ai bien hâte de voir, j'ai des statistiques pour toi, parce que live, il y a à peu près 15 000 personnes qui ont regardé le show sur YouTube
fou,
et
ça.
Facebook. Ça, c'était à 6h05.
C'est
pour, fou. Pour ceux qui se demandent, 6h05, c'est parce que c'était l'heure du show à TBS Superstation dans le temps, qui passait à 6h05. Donc, c'est pour ça qu'ils ont gardé la même heure pour donner un petit clin d'œil au passé. Ça, là, Kevin, tu l'as peut-être pas expliqué comme il faut, mais NWA Power, là, c'est la NWA de Billy Corgan. Là. C'est le chanteur des Smashing Pumpkins qui... chanteur ou guitariste des...
J'écoute pas ces musiques-là.
Moi non plus. En tout cas, il fait partie des Smashing Pumpkins. Et donc, 15 000 personnes, AEW
mais
Dark.
Tu sais quoi la finale qu'ils ont eu? Ils ont eu presque 500 000 en tout la première semaine. C'est ça.
En tout, la première semaine.
Avec tous les visionnements.
Avec tous les visionnements, oui, mais le soir même, 15 000. Imagine, AEW Dark a eu 25 000 au même moment, genre live. Impact fait à peu près 3 500.
Malade.
Sur YouTube. Et tu parles de 500 000, encore là, AEW Dark, pour la semaine, a eu 419 000.
Ouais.
Fait qu'imagine comment... Genre, ce show-là a vraiment, vraiment été vu.
Il est bon.
Et c'est vraiment, vraiment cool. Par contre, la moyenne de minutes que le monde a écouté le show, parce que bon, là, ce qu'on dit là, c'est, tu sais, tu cliques une fois, puis c'est là. C'est très un petit peu en bas de 14 minutes. Sur quoi? Sur une heure?
Ouais.
Sur une heure, en fait. C'est pas beaucoup.
Oui, mais c'est beaucoup, parce que...
En termes de viewers, Dave Meltzer, il a une formule pour changer ça, si c'était, mettons, à la télé, en termes de viewers télé. Puis on parle d'à peu près 39 000 viewers.
Mais c'est bon, fait,
tu sais, c'est quand même pas si pire. Mais pour vrai, avec les reviews que le show a eu, je pense que ce chiffre-là, ce nombre-là peut juste augmenter. Moi, j'ai pas eu la chance de le voir. Je manque de temps. C'est cette valeur-là. Je manque de temps. Il y a trop de luttes. Puis bon, j'ai quand même une vie remplie. Mais
une vie remplie. On est au Santos. Les mercredis commencent pas, là.
That's dirty!
Mais ça fait partie de mon segment divertissement personnel de la semaine.
Et puis, sous avec moi le mercredi, that's it.
Je suis pas nécessairement sous, là. Mais, hey!
Gars, je t'ai dit, on était sous ensemble, arrête!
Non, on était pas sous. Toi, t'étais sous.
Non, j'étais pas sous.
Toi, un old fashion puis un shot, puis tu perds la map. Donc,
c'est un peu vrai.
mais tout ça pour dire que pour vrai, j'ai lu que des commentaires positifs, des gens que j'ai pas entendu parler de lutte depuis longtemps qui m'ont dit « Hey, t'as-tu vu ça? » Donc, pour vrai, NWA Power, allez voir ça si vous avez une chance. On s'en va où, là?
On s'en va...
Hell in a Cell, je pense que là, on est rendu là.
Ben, Hell in a Cell, moi, je sais pas qu'est-ce que tu veux que je dise.
Hell in a Cell, là?
Sur le fait que Becky et Sasha, ils ont eu le meilleur match. Ils ont eu un excellent match, Becky et Sasha. Super innovatrice.
Ouais, moi, le spot avec les
pics, là.
Les pics et la chaise. Les pics et la chaise, là. Hey, c'était-tu écœurant, ça?
Là, tu pars de ce match-là.
Ouais.
C'est ça le problème d'avoir deux Hell in a Cell. Tu pars de ce match-là, et après ça, tu t'en vas voir la boîte. Le bon, je vais le dire, ma mère, elle dirait caca chien. Le caca chien que Seth Rollins et Bray Wyatt nous ont donné en finale.
Pour vrai,
je
là.
Peux plus.
OK. Il y a deux choses là-dedans, OK? Premièrement, l'écran, les lumières étaient toutes rouges. C'était laid.
Moi, j'ai
c'était
rien
pas
contre.
Beau.
J'ai rien contre.
Mais live, il paraît c'était dégueulasse, là.
Ouais, c'est ça, c'est live. C'est live, c'est
mais vrai. Même à télé, c'était pas cool. Après un bout de temps, tu fais comme, ouais, non, j'aime pas ça. Je peux pas croire que de un, ils pouvaient pas le changer, mais tu m'as dit non, ils pouvaient pas le changer. T'sais,
pas en plein milieu du match.
C'est correct.
Le prochain match.
Ils ont pas fait des tests avant?
C'est ça.
S'ils en ont pas fait, ils sont épais. S'ils en ont fait pis qu'ils ont trouvé ça beau autant devant une télé que live, ben ils sont encore plus épais. Puis en plus, le match, il y avait un million de façons de faire ça. Mais le résultat que tout le monde voulait, c'était Bray qui gagne. On l'a dit, ça sert à quoi de mettre Bray dans ce match-là s'il ne gagne pas? Mais ils ont trouvé la pire façon de ne pas le faire gagner. La pire façon! Depuis quand qu'un arbitre fasse comme... Non, non, là, c'est trop. Tu sors un sledgehammer, là, et là, c'est trop, là.
Ouais.
Triple H a sorti combien de fois un sledgehammer? Dans le même match, Bray Wyatt, il a sorti une massue qui
de clown.
Ben, on aurait dit une massue de Obélix, de clown, exactement. Et ça, c'était correct. Mais tu sors un sledgehammer, Puis là, non, tu vas trop loin.
J'ai pas envie de parler.
Ah, pour vrai, là.
J'étais dans un bon mood.
T'étais pas dans un bon mood. Ben oui, je t'ai jamais vu aussi fâché.
J'ai parlé de NWA Power.
Ben,
j'ai parlé de New Japan.
Faut
j'étais bien heureux, là. Là, après ça, tu me rapportes ça. Là, tu me. Hey, Becky puis Sacha, ils ont eu un bon match,
c'était
man.
Excellent.
J'ai vu ça puis j'ai fait, show, la carte va être lit. La carte était lit.
Ouais. Non, effectivement.
Next.
Fait que bref, next. Ellen a sauvé. Allez voir ma chronique sur le tvasport.ca. J'ai parlé de Hell in a Cell, où je disais que les fans voyaient rouge, étaient rouges de colère. Un beau petit jeu de mots, je trouvais bien drôle, mais bref. Allez voir ça, c'était pas ma chronique de cette semaine, de samedi, c'était samedi dernier.
Interlude musical. Ça devrait gagner un Félix.
Ben, écoute...
At least.
Oui.
Ça, puis la petite toune de New Japan, là.
Au moins.
Un Félix.
Un Félix pas de vin, mais un Félix pareil.
OK, c'est bon, calme tes nerfs. AEW, les deux premières semaines, on n'a pas rentré en détail, là. Inner Circle.
J'adore ça. OK.
J'adore ça.
Hey, là, je m'en allais me pogner, là.
La promo de Chris Jericho.
Cette semaine, là.
Il a arrêté les We The People. Il nous a présenté les Los Boricuas. Il a fait de Sammy Guevara une vraiment grosse star.
Pour vrai, là, quand il a entendu les We The People, qui étaient très, très forts, puis qu'à l'intérieur de 30 secondes, ça a viré en gros chaîne de AEW, j'ai comme fait « wow ». Wow que t'aurais pas eu cette liberté-là à la WWE.
Ben non,
cette liberté-là, ou presque. Et c'est ça qui est triste, parce que à la WWE, le chant aurait été là, et on aurait juste fait un mauvais gag en disant qu'il y avait un chant qu'on voulait pas, puis on aurait continué. Jericho, il est sorti hors du script. Peut-être à quelque part qu'il avait pensé que c'était pour arriver.
Mais
il s'était peut-être préparé une ligne. C'est pas grave. Il l'a bien joué, si c'était le cas. Et pour vrai, ça a été une promo du tonnerre pour employer ton
expression. Hey, go. La première attaque lors de la première semaine de Inner Circle sur les Babyface était le fun. Le retour des Babyface la semaine d'après était le fun aussi. T'établis les Babyface d'un bord, les Heels de l'autre.
Mais Jake Hager, on aime ou on n'aime pas?
J'adore Jake Hager. J'aime le fait qu'il fixe la caméra, il n'y a aucune émotion. J'aime le fait qu'il ne parle pas.
J'aime le fait qu'on a misé sur son background de d'arts martiaux mixtes. Et qu'on n'a pas embarqué dans le... Je comprends qu'il a été connu sous le nom de Jack Swagger et tout ça, mais je pense que là, cette semaine, on a vraiment... cette semaine, mercredi de la semaine dernière, on a vraiment comme tourné ça là, avec le We The People. Je pense que là, je serais surpris qu'il y ait encore des We The People ou sinon aussi fort.
MJF. MJF, j'aime. Des cœurs partout, des bonhommes avec des yeux de cœur.
Hey, la journée qui
la
va
journée
tourner
qui,
sur Cody.
Je vais pleurer, je pense.
Ah.
Je vais pleurer, comme quand Kofi a gagné le titre.
Mais tellement qu'il était heel il n'y a pas si longtemps.
So
et
great.
Là, tellement babyface,
pour
vrai.
Oui, mais il est heel. C'est un heel, sauf avec Cody.
Ben oui.
Check ses posts. Moi, je suis sur Instagram juste parce que son personnage de heel, il est parfait. Il répond aux gens, il met des... Il est heel, sauf avec Cody.
Oui, mais en même temps, il est toujours impliqué avec Cody. Fait qu'on
on l'a vu dans le Triple Threat, on l'a vu.
Mais le dernier show, il est venu faire un save en babyface. Mais il a juste teasé juste assez.
Le regard, man.
Oui. Puis tu sais qu'à un moment donné, ça va arriver. Mais là, ils font une couple de fois qu'ils teasent. La journée, ça va arriver. C'est la journée qu'on va s'y attendre le moins.
La division féminine est weak.
Hey, ça, on va y revenir parce qu'on a une super bonne question plus tard là-dessus. Mais pour vrai, là...
Weak.
Oui, on va y revenir, mais pour vrai, elle est... c'était pas si mal.
Weak.
C'était pas si mal.
Faible. Weak. Pour ceux qui pensaient que les Bucks allaient se mettre over...
C'était quand même mieux que certains combats qu'on a vus à Raw ou à SmackDown.
Weak.
Est-ce que tu peux me donner ça?
Ben,
t'as déjà vu des matchs
pires que ça
à Raw ou à SmackDown. Merci.
Les Bucks, on pensait que les Bucks, les quatre personnes qui pensaient que les Bucks allaient se mettre over,
parce
donner la chance au Private Party.
Ben oui, c'est pas parce qu'ils sont.
Non.
C'est justement pas ces erreurs-là qu'ils veulent faire. C'est pas parce qu'ils sont vice-présidents exécutifs que nécessairement ils vont toujours se mettre over. Puis ils ont donné. Hey, comment il s'appelle là, Mark, l'un des deux Private Party.
Ben, je connais pas leur nom là.
Ok, celui. C'est Mark, le MRR.
Ben, celui avec la coupe de cheveux.
Ouais, celui-là qui a fait des
ouais,
dives.
Ouais, les topés.
Back and forth. À gauche, à droite, à gauche,
ben,
à droite. Hey, as-tu vu la réaction?
Ouais.
Ah, ça, c'est une autre affaire. La foule.
Ouais.
elle est tellement loud. La foule du Full Sail est loud aussi, mais c'est plus facile quand t'as juste 400 personnes. Ouais. Là, elle est vraiment loud.
Omega, Moxley, ça avance très bien. On rajoute Pac là-dedans. J'aime le fait que Omega a ramené son broom pour faire référence à son ancien personnage. Bon, ça va, comme je te dis, ça va très bien, sauf que là, cette semaine, j'ai besoin de dénouement. Darby Allin face à Chris Jericho. Pas seulement Chris Jericho, mais bien The Painmaker avec le maquillage. Ce soir, je vous rappelle, on enregistre le mercredi, donc on n'a pas encore écouté AEW cette semaine.
Mais pour vrai, Darby Allin, deux choses que j'adore. Son coffin
mais
drop.
Mais il va se faire mal. Moi, à chaque fois, je ferme les yeux parce qu'il va se faire mal.
Ceux qui
ne
l'ont pas vu, là, il monte sur le troisième. Il se pitche par en arrière, les bras croisés comme s'il était dans un cercueil, puis il tombe par en arrière, les épaules sur le gars. C'est super beau, par exemple. C'est vraiment super dangereux. Et à la fin, quand il est arrivé sur la rampe en skateboard, puis là, il a frappé Jericho sur le dos avec le skateboard, c'était de toute beauté. Tu sais avec qui Darby Allin sort?
Non.
Priscilla Kelly.
Ah ouais!
Priscilla Kelly, qui est, à mon avis, là, un nom que vous allez entendre
dans
les
prochaines
années. C'est celle avec le tampon.
Là, Fred, il a fait le saut. Là, elle a mis...
Elle a fait un reply, si vous voulez, au pénis qu'on avait vu à All In dans l'entrée de Joey Ryan. Et elle a été avec des tampons.
Non. Dis la vérité, Pat Laprade. Okay, elle se bat dans un bar, là, puis elle s'est enlevé le tampon, gorgée de sang, puis elle l'a mis dans la bouche de son adversaire. C'était dégueulasse. À partir de ce moment-là, j'ai dit, je vais plus jamais écouter de match depuis Priscilla Kelly.
Mais il y a eu aussi un stunt qu'elle a fait avec, genre, je pense, des tampons qui ressemblaient un peu au pénis de Joey Ryan. Il me semble, en tout cas. Mais oui, il y a eu l'affaire du tampon, mais j'ai vu son match contre Jake Atlas. Jake Atlas, qui est un des gars là, que tout le monde va vouloir signer d'ici un an, et c'était écœurant. Je te le dis, là, c'est une fille que elle a un potentiel énorme et bientôt, là, on va la voir sur un plus gros stage. Et, justement, le fait que Darby Allin soit avec AEW, c'est peut-être un endroit où elle pourrait aller.
AEW Dark, cette semaine, c'était mardi, donc c'était hier. Le match Joey Janela face à Omega, à voir. Et le match de nos boys, les Québécois, c'est le seul match que j'ai pas encore vu. Donc,
Dark Order dans un three-way. Ils ont été over. Dark Order qui vont, c'est pas mercredi qu'on, le 16 octobre, c'est le 23 octobre qu'ils vont avoir leur match dans le tournoi.
Parce qu'eux, ils ont un bye.
Eux, ils ont eu un bye pour les demi-finales.
C'est AEW Dark, c'est le fun à écouter, mais j'ai vraiment pris le match de.
C'est comme n'importe quoi, c'est comme le football. T'es un fan de foot, écoutes-tu tous les matchs de la NFL?
J'écoute tout ce que je peux.
Tout ce que tu peux, puis t'écoutes des highlights ou tu lis les résultats.
Exactement.
Fait que c'est la même chose avec la lutte.
Raw, on va pas s'éterniser là-dessus parce que ça vaut pas la peine. Ils ont fait 2.3.
Ils ont fait 2.28. Ouais. Ils avaient fait 2.33 la semaine d'avant, puis ils avaient fait 2.57 le dernier Raw à le season premier, c'était 2.57.
Mais pour mettre des chiffres, pour comparer le football de la NFL et Packers face Packers de Green Bay face aux Lions de Détroit, ils ont fait 13 millions et il y a 3.6 millions de personnes qui ont regardé le baseball. C'est pas un bon temps pour Raw en ce moment parce que c'est la série mondiale qui s'en vient. Mais le retour de la NFL, qui plus la saison avance, plus les matchs vont être importants, mais le show est juste pas bon.
Mais c'était un draft, right? La dernière fois qu'il y a eu un draft, c'était en avril, il avait fait 2,67 millions. Ouais. Et en 2018, le shake-up qu'il y avait eu, veux-tu savoir combien il y avait eu de monde?
J'ai peur.
3,62.
God damn.
Imagine, on est rendu à 2,28.
Street Profit, qui sont en feud avec le OC, j'aime l'idée. On va les sortir de backstage pour les mettre dans l'arena.
Enfin.
C'est ça leur force. Ils sont bons en promo, mais leur force, c'est leur connexion avec la foule.
Ouais.
Bobby Lashley puis Lana.
Hey, pour vrai, là. C'est du mauvais soap, là.
C'est les feux de l'amour, mais juste le feu.
Mais c'est du mauvais feu de l'amour, là. C'est comme si les writers des feux de l'amour qui sont fait congédier dans les 10 dernières années à WWE avaient tout été les chercher, puis c'est eux autres qui ont pondu cette idée-là.
Lacey Evans puis Natalya, les deux, ils font un Last Woman Standing match la semaine dernière.
Ça fait un mois et demi qu'ils sont en feud.
Un mois et demi qu'ils se battent à chaque... Hey, là, je vais le pogner nerf. Fait un mois et demi qu'ils se battent à chaque jour.
Oui.
Et là, Natalya, elle a besoin d'un partner. Elle appelle Lacey Evans.
Ça, là, ça marche. Ça, c'est un vieil angle, OK? Ça marche quand ça fait un an que t'as pas feudé. Hey. Mad Dog Vachon faisait ça avec Vern Gagné au Minnesota. C'était les deux plus gros adversaires. Puis quand Vern Gagné a eu besoin d'un partenaire, il savait qu'il pouvait juste truster Mad Dog Vachon. Mais rendu là, ça faisait un an ou six mois qu'il s'était pas battu. Pas genre une semaine, dans un match violent. Je dis, voyons donc. Ça sortait, c'était ridicule. Ridicule. Le burn it down, là, Seth Rollins.
Hey, pourquoi? Pourquoi? Allô? 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 Pourquoi?
Il a été hué comme il a jamais été hué depuis qu'il est babyface. J'en reviens pas qu'on a pensé que c'était une bonne idée. J'haïssais pas qu'il soit sur le set puis qu'il attaque.
Mais pourquoi Bray il a Wyatt. Brûlé le set? Là, il a mis Bray Babyface.
Mais là,
c'est ça qu'il a fait. Pour les gens, là.
Mais ce que ça veut dire aussi, ça veut dire qu'il a fait une attaque sur Bray Wyatt avec un briquet sur lui. Il l'a mis où son briquet? Aux dernières nouvelles, son saut n'avait pas de poche.
OK, yo.
Moi, je pose les vraies questions.
Ben, pose-moi les vraies questions, puis les vraies questions, c'est les questions des fans.
Mais,
attends! c'est un
bon segway, sauf que tu vas venir le scraper parce que t'as des choses autres à dire.
Ben, je voulais faire mon top 5, mais...
C'est un top 3.
Mon top 3.
Ben, vas-y, fallait ton top 3.
OK, mon top 3 de mes guys. OK, ça, dans le fond, c'est un j'allais dire un client. On n'a pas encore de client, c'est des auditeurs.
Oui.
On sait jamais. Peut-être qu'on va partir de Cube, puis qu'on va avoir un Patreon. Mais ça, c'est Jean-Nic qui va décider.
Tu négocies aussi bien que Mike Kanellis?
Non, parce que Mike Kanellis, il n'y a pas de poids, lui.
toi, t'as un surplus de poids.
Moi, j'ai un surplus de poids, puis ça commence par mon derrière.
That's dirty!
Numéro 3, Nick Aldis pour... c'est le top 3 des deux dernières semaines, selon moi.
Ouais.
Donc, Nick Aldis pour le fait qu'il soit en train de traîner Power 3R. Numéro 2, Chris Jericho pour sa promo et ses deux combats, parce que ça fait deux fois qu'il se bat, lui, à AEW. Et numéro 1, Will Ospreay, qui a un des matchs de l'année au top 5 de l'année. Donc ça, c'est mes three guys des deux dernières semaines pour les antipodes de la lutte.
Tu veux surprendre ton superbe segway pour nous envoyer aux questions du public?
Maintenant, les questions du public.
Oh, wow. Hey, on n'a pas de thème pour ça. Ça va prendre un thème pour ça, mon frère.
Wow! Yo, vous avez votre propre thème, les gens à la maison!
Wow!
Yo, frère des clutches!
On se croirait dans un quiz des années 80, j'adore ça!
On se croirait au Electric Avenue!
Wow! Il me semble que j'entends René Simard à Laser 3345.
Je sais pas c'est qui!
Non, toi, tu sais pas c'est qui, mais il y a peut-être des auditeurs, ça va leur dire quelque chose.
Hey, man! Ils ont leur propre thème!
C'est merveilleux!
Dites-nous sur Twitter à quel point vous appréciez Fred, il vous a fait un thème, c'est très nice.
Alexandre Tifo qui nous demande, autre que la WWE, quelle est votre grosse déception dans le monde de la lutte en 2019 jusqu'à présent?
C'est une très bonne question.
C'est une très bonne question.
Autre à la WWE.
Autre que la WWE. Puis là, c'est ça.
Ben, je dirais la division féminine de AEW.
Ah, ouais, OK. Ouais, c'est j'haïs pas ça comme réponse. Je te dirais Ring of Honor. Ring of Honor qui a
non,
pas été capable.
Pas d'attente, là. T'as pas de déception quand t'as pas d'attente, là.
Non. Hey. Ring of Honor a toujours été capable de se relever des départs qu'ils ont eu vers maintenant. La WWE et c'est la première fois qu'ils sont pas capables de le faire.
Pour l'amour de PCO, j'espère qu'il ne signera pas là-bas puis qu'il s'en va à AEW.
PH qui nous demande, la division féminine de AEW est quand même faible, on en a parlé. Que devrait-il faire ou qui devrait-il aller chercher pour régler ça? Ça, j'aime ça.
J'ai pas écouté la question, peux-tu la répéter? J'en lisais, non, parce que Joe a envoyé une très bonne question.
Ah, t'as un problème. Oh. TDAH. C'est pas TDAH, mais PH qui nous pose la question. Oh, okay. La division féminine de AEW est quand même faible, on en a parlé. Que devrait-il faire ou qui devrait-il aller chercher pour régler ça?
Okay, là,
moi je pense que c'est plus qui que quoi.
Ben non, moi je pense que c'est quoi, là? Dr. Britt Baker aurait dû être dans le match face à Rio. C'est quoi son nom?
Nyla Rose.
C'est pas Nyla Rose. Depuis le jour 1, je t'ai dit, pas d'affaire, là.
Mais, overall, je pense qu'ils ont quand même un problème de profondeur dans cette division-là.
Mais t'as pas besoin de profondeur. Ils ont un match ou ish deux par show.
Ben oui,
Tu mets Britt Baker, The Librarian, qui sont rôles, même si tout le monde l'haït, là. C'est un kill. Puis elle se fait huer, puis that's it. Mets elle, tu mets Rio, puis tu mets l'autre petite japonaise le fun avec les pantalons baggy, là. Tu mets ces quatre-là, puis t'es fait se battre pendant un bout, puis tu rentres du monde.
Moi, OK. Ça, c'est
Awesome Kong est supposé d'être là. elle se bat contre Nyla Rose.
Ça, c'est à partir à toi. Moi, je pense qu'ils ont besoin d'aller chercher des lutteuses qui sont un peu plus fortes, un peu plus spectaculaires. Et Mercedes Martinez, qu'on a vu,
ben oui.
Qu'on a vu à All Out. Priscilla Kelly, que je mentionnais tantôt, pour vrai, ils ont besoin d'aller la chercher. Et la journée... que Tessa Blanchard, son contrat va être fini avec Impact. Donnez-y un pont d'or, là. Donnez-y un pont d'or, puis des pépites d'or dessus, puis donnez-y des... Elle aime les chips Old Dutch au ketchup. Faites-y en or en plus, puis donnez-y ça. Pour vrai, la compagnie de lutte qui va aller chercher Tessa Blanchard, ça va être un game changer. Mais oui, je dirais Martinez, Priscilla Kelly, ça serait mes deux premiers choix pour ajouter. C'est sûr qu'encore là, ils peuvent pas ajouter 12 000 personnes. Il y a encore des Joshi à aller chercher au Japon également. Mais je pense qu'ici aux États-Unis ou au Canada, c'est les deux que j'irais chercher en premier.
Joe nous demande, est-ce que le background de lutte olympique est un gros atout pour devenir lutteur? La transition pour Angle, Ronda, Kane et Kane semble, Kane Velasquez et non Kane le monstre, là, semble s'être fait aisément ou plutôt avait... Yo, j'ai de la misère à lire le patinet.
De la misère à lire point.
La transition pour Angle, Ronda et Kane semble s'être fait aisément ou plutôt on avait affaire à des surdoués athlétiques.
Ouais, mais Ronda vient pas de la lutte olympique. Ronda vient du judo. Kane, faudrait que je vérifie, mais il vient du Brésil, d'après moi. Il vient pas du Brésil, il vient du Mexique.
Jiu-jitsu, sûrement.
Mais d'après moi, c'est plus jiu-jitsu. Ouais.
Je pense qu'il veut dire...
Kurt Angle, Brock Lesnar, ça, c'est des de lutte olympique. Dans le temps, ça prenait un background lutte olympique. Même au Québec, là, les lutteurs, avant de devenir lutteurs professionnels, s'entraînaient tous à la lutte amateur, la lutte olympique. Je pense que le fait d'être entraîné dans un autre type d'art martiaux, parce que bon, c'est les arts martiaux mixtes, donc ça peut être mélangé là-dedans, ça marche pas tout le temps. Ça a marché avec Ronda, ça a marché avec Matt Riddle. Matt Riddle vient du UFC, on l'oublie là, des fois, mais il vient du UFC. Mais bon, Stephen Bonner, ça a pas marché autant. Tom Lawler sur la scène indépendante, c'est mieux que Bonner.
C'est bien,
mais c'est pas au niveau de Matt Riddle. Donc, tu sais, ça peut aider certains, mais en même temps, c'est pas un sure shot non plus. C'est pas un garantie. C'est vraiment comment l'athlète arrive à se développer là-dedans. Puis en même temps, Kurt Angle était tellement bon au micro. Que tu sais, ça l'a aidé, son charisme aussi. Tu sais, t'as beau être à faire la transition comme il faut, faut que t'ajoutes du charisme aussi là-dedans.
Dernière question avant l'éphéméride de Pat Laprade, la question sur Chris Jericho, je la répète. Bon tournage ce soir, bien de vous entendre. Ma question, après tout ce qu'il a fait dans sa carrière et ce qu'il fait présentement à 48 ans, où placez-vous Chris Jericho dans votre rang des meilleurs de tous les temps? Top 5?
Je te laisse 10, y aller en premier.
Top 25? Selon moi, en anglais, en fait, aux États-Unis, ils parlent souvent du Mount Rushmore avec les quatre présidents.
Ah, oh boy. Bon, vas-y.
Sur ce Mount Rushmore-là,
oui.
Sans aucun doute, il y a Chris Jericho.
Oh.
Chris Jericho est là depuis, quoi, back then? Depuis, quoi, 97 qu'il a commencé?
Il a commencé à
94.
Début des années 90.
Ouais, 94.
91, 92 en soi-là.
Ce gars-là, il a été partout, roulé sa bosse partout. Il a été une star partout, même si les gens disent qu'il n'a pas été une star du level de Kevin Nash et Scott Hall à WCW. Il était quand même une star. Il y avait des segments, il y avait du temps, puis il faisait bien avec. Il était le plus gros free agent ou la plus grosse, le plus gros échange, si on veut, ou la plus grosse transition qui a été faite dans la guerre entre WCW et WWE. Selon moi, c'est lui qui a fait pencher la balance vers WWE lorsqu'ils l'ont amené vers la WWE, puis ils l'ont tout de suite mis dans l'angle avec The Rock, même si ça n'a pas marché au début. Ce gars-là, c'est la constance depuis jour 1. Puis c'est ça qu'on peut pas lui reprocher. Comparé aux autres, comme, mettons, Ric Flair, qu'on peut dire... Puis Ric Flair est sur mon Mount Rushmore, sans aucun doute. Mais ses derniers matchs, c'est pas ses meilleurs matchs. Chris Jericho, encore aujourd'hui, à 48 ans, il y a des matchs excellents.
Okay.
Puis Vas-y.
Non, non, je te laisse finir.
Puis, en tout cas, moi, je trouve que ce gars-là est allé au Japon, il a sorti des main event match, il est à AEW, c'est la star, puis pas parce qu'il a un nom, mais parce qu'il l'est vraiment. Puis la WWE, il retournerait demain matin si Vince faisait un push pour vrai. Là, son match face à Kevin Owens aurait pu être le main event de WrestleMania. Puis ça, c'est pas parce qu'il y avait juste Kevin Owens dedans, mais c'est parce que Chris Jericho, il a fait tout un travail avec le Festival of Friendship. Puis c'est ça.
Bon, OK. Chris Jericho, sa plus grosse qualité, c'est qu'il sait se réinventer. OK? Ça, il, à chaque fois, il se réinvente. Il s'est réinventé à plusieurs reprises à la WWE. Il s'est réinventé quand il est sorti de la WWE. Il s'est réinventé au Japon. Ici, quand il est revenu pour AEW.
Il se réinvente.
Il se réinvente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, c'est un excellent worker et il a probablement les meilleurs matchs de sa carrière dans les dernières années. Ceci dit, ça dépend toujours. Qu'est-ce que vous considérez comme étant un bon lutteur? Pour moi, un bon lutteur, c'est un package deal. C'est quelqu'un qui a du charisme, qui est bon dans le ring. Qui est capable aussi d'attirer des gates. C'est un package deal. Qui a été on top pendant des années. C'est ça, pour moi, un bon lutteur. C'est un gars là qui a été capable d'attirer, de remplir des arénas à travers le monde.
Il n'a jamais eu cette opportunité-là. Ils n'ont jamais donné l'opportunité d'être de guy à Chris Jericho.
Pour moi, c'est un élément
Il trouvait le moyen d'être de guy, même s'il n'y avait pas l'opportunité.
Pour moi, c'est un élément très important. Je vais vous nommer des noms, là. Puis faites une réflexion. Dites-moi s'il est en avant Chris Jericho ou non. Puis ça va vous donner une idée de son classement. Toi, t'es pas obligé de répondre.
Non, je vais te répondre.
Parce que clairement, tu vas juste en prendre trois de plus.
Je vais te répondre.
Mais bon, Hulk Hogan.
Non.
Bruno Sammartino.
Non.
Ric Flair.
Oui.
André the Giant.
Attends. Non, je Ricky, me suis trompé.
Non,
j'ai mal compris.
Je veux même pas te répondre.
Non, je vais répondre.
Je les veux pas te répondre.
Je m'en fous, t'es pas
de répondre. Je demande au monde qui nous écoute.
Ouais, puis tu les attends même pas. Moi, je vais répondre. Fait que
André the Giant.
Shit.
Ricky Dozan. Buddy Rogers.
Mais non, El Santo. Mais non.
Antonio Inoki. Stone Cold Steve Austin.
Oui.
The Rock. Giant
oui.
Baba. Gorgeous George. Vern Gagne.
Mais non, pas.
George Eikenschmidt. Harley Race.
Tu niaises, tu
Nick Bockwinkle.
Tabarnouche.
Dusty Rhodes.
T'es-tu sous?
Et je pourrais continuer, là.
Ben, continue,
Shawn Michaels.
Lis-nous l'encyclopédie. Lis-nous l'encyclopédie.
Pour vrai, là, puis il y en a, j'ai pas nommé. Là,
tu peux pas mettre Shawn Michaels parce qu'ils ont pas la différence, là, c'est que Chris Jericho, il a une longévité que ces lutteurs-là n'ont pas.
Frank Gotch, Strangler Lewis,
man,
Jim Landis. Pour vrai, Jericho est à mon livre, à moi, probablement, à cause de sa dernière run. Et de la run courante, là, puis c'est dur à évaluer quand il n'aura pas fini sa carrière, mais probablement un top 30, un bon top 30.
Fais ton éphéméride, là.
Mais il est pas top 10, il est pas top 15, ouais. Il est pas top 20.
Oh, c'est ça.
Il pourrait finir dans le top 25. D'accord. Pour l'instant, il est dans le coin de top 30 pour toutes ces raisons-là.
M'en fous, je veux un éphéméride. T'es pas content, Fred? J'ai été méchant.
Tu vas adorer mon éphéméride.
Ben, j'haïs tes affaires sur Chris Jericho. Fait que je sais pas si je vais adorer ton éphéméride.
Ouch! Tu vas-tu arrêter de bouder comme un bébé de 8 ans? Là? Ta sœur est plus mature que toi,
man. Je boude pas,
man. 16 octobre 2001, c'était le tout premier enregistrement télé de la WWE à Montréal.
Ah! C'est quoi la carte?
Et là, je parle pas de pay-per-view. Là. Je parle vraiment enregistrement télé. C'était SmackDown, c'était même pas Raw. Alors, ce qu'on a vu à SmackDown, bien évidemment, là, parce qu'il y a eu des dark matches, puis il y a eu un Sunday Night Heat avant. SmackDown, on voit Rob Van Dam arriver dans une limousine, man, avec Vince McMahon qui est censé être l'autre personne dans la limousine. On a eu Hurricane, Lance Storm et Molly Holly qui ont défait Lita et les champions WCW par équipe. Parce qu'on se rappellera de la WCW avant encore ses titres. Là, c'était mars à octobre, 7 mois après l'achat de la WCW. C'était les Hardys. Fait que c'était Hurricane Storm, Molly Holly qui ont défait Lita et les Hardys. Maven. T'appelles-tu Maven? Il avait gagné Tough Enough.
Ben, attends, il avait pas juste gagné Tough Enough. Il avait éliminé Undertaker dans un Royal Rumble.
C'est vrai. J'avais oublié ça. Contre Taz. T'avais Tajiri accompagné de Big Show qui a battu l'un des co-champions par équipe d'Evan Dudley accompagné par Bubba et Stacy Kibler. T'avais Booker T et Test Quelle équipe. Contre Undertaker et Kane. Il avait battu Undertaker et Kane. Raven et Justin Credible avaient battu le champion WCW de Rock et Chris Jericho par disqualification. Le champion hardcore Rob Van Dam avait affronté Kurt Angle dans un no contest quand Steve Austin était intervenu et avait attaqué Kurt Angle et le show s'était fini avec ça. Pour vrai, j'y étais. Il y avait 14 000 personnes, imagine. 14 000 personnes, on a de la misère à mettre. Ben, on n'a pas de la misère, mais on met 10 000 à Raw, puis 8 000 à peu près à SmackDown. Il y avait 14 000 personnes au Centre Molson. Et le taping d'après, ça avait été le premier Raw, et c'était le 18 mars 2002. C'était le Raw après WrestleMania 18, Hogan contre The Rock. Donc, 16 octobre 2001, il y a 18 ans aujourd'hui.
Très, très cool.
Premier enregistrement télé, c'était SmackDown à Montréal.
C'est ce qui met fin au podcast. J'arrive tellement pas à croire du manque de respect, de la blasphémie, du vagabondage de Pat
Laprade. Il me reste 10 minutes sur mon parcomètre. Tu veux-tu te grouiller avec la fin?
Sur le dos de Christopher Jericho. Mais tu sais quoi? Jericho veut lui montrer dans les prochaines années. Il y a Fred qui rajoute l'argent sur son parcomètre. Il reste 14 secondes. Donc, on se dépêche à faire la fin pour Fred. Continuez à nous suivre sur Cube, Stitchers, Google Play, Apple Music, Spotify. Laissez-nous 5 Star Frog Splash des commentaires. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de musique? OK, ça s'en vient. Sur les réseaux sociaux, @KevinRaphaël21 et @PatLaprade.
Et c'était Pat Laprade, a.k.a. Kevin Raphaël. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et on vous dit à une prochaine fois, c'est un rendez-vous!
Cours, Fred, va mettre de l'argent dans
pour
le parcomètre!
Pour vrai, là, Chris Jericho lui-même se mettrait pas dans le top 5.
Mais on s'en fout que lui,
même lui se mettrait pas là.
T'es wack, man.